numéro 2. C'est parti pour un tour.
Et nous sommes aujourd'hui le lundi 10 décembre. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon réveil à tous, il est 5h.
Presque. Il est presque 5h. Ouais, on a voilà, toujours. Mais, ça, c'est, mais oui. Sur Europe 1, il faut savoir qu'on a un temps d'avance.
Oui, tout le temps.
On est prescripteur et à 4h59, on est en mesure de vous fournir déjà le journal de 5h de ce 10 décembre avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Non, j'attends qu'il soit 5h.
Contractuellement, Jérôme ne bougera pas un petit doigt avant qu'il voit inscrit 5h sur la pendule.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Jérôme. Les titres.
La parole présidentielle est attendue ce soir, 20h. Emmanuel Macron doit s'exprimer sur la crise sociale qui s'exprime depuis plus de 3 semaines. L'Élysée promet des mesures, je cite, concrètes et immédiates. L'enjeu pour le président, c'est aussi de reprendre le contrôle de la situation. Et afin de peaufiner ses annonces, le président reçoit toute la journée chefs de file, syndicaux, patronaux, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale ainsi que des élus locaux sont attendus au palais présidentiel à partir de 10h. Et puis au surlendemain d'un nouveau samedi de violence partout en France, nombre record de comparutions immédiates attendues aujourd'hui, mais aussi demain, des violences qui ont aussi des conséquences sur l'économie, nous l'entendrons.
Europe 1.
Des mots et des annonces pour tenter d'apaiser la colère des gilets jaunes. 24e jour de conflit aujourd'hui. Et Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir 20h, allocution depuis l'Elysée. Alors que va-t-il dire? A priori, pas de retour de l'ISF, pas de coup de pouce du SMIC, deux revendications principales des contestataires. Mais parmi les pistes, des heures supplémentaires mieux rémunérées ou encore la suppression de la taxe d'habitation dès l'année prochaine. Pour tenter de viser juste sur ces annonces, le président va recevoir à partir de 10h les syndicats, le patronat, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi des élus locaux. Il doit aussi montrer qu'il reprend le contrôle de la situation. Virginie Riva.
Le président est pugnace, c'est ce que nous dit l'un de ses conseillers, tout à fait déterminé pour l'acte 2, renchérit l'un de ses proches. En clair, il reprend la main après la mobilisation de samedi. Il a travaillé tout le week-end, il a des idées de mesures qu'il va affiner ce matin lors de sa large concertation, nous explique un conseiller. Le but, écoutez, il doit être une chambre d'enregistrement, nous dit ce conseiller. Le ton est donné, celui d'un président qui respecte et écoute les corps intermédiaires et ceux qui vont être les plus choyés, ce sont les maires, souligne un de ses proches. À l'issue de cette réunion, le président devrait annoncer quelques mesures d'urgence, mais la liste ne devrait pas être très longue. S'il annonce 50 mesures face caméra, ça voudrait dire qu'il a tout fait seul, nous glisse un conseiller, alors qu'une grande consultation publique commence le week-end prochain. En attendant, le président va s'exprimer ce soir à 20h à l'Élysée, dans un cadre qui ne doit pas trop pompeux, c'est en tout cas le conseil de l'un de ses proches, pour lequel cette parole est très importante. Un ministre enfonce le clou, la réponse présidentielle doit être à la hauteur de l'attente, et l'attente est considérable.
Virginie Riva est sur les barrages. Certains gilets jaunes avancent déjà que cette intervention présidentielle survient trop tard et envisagent un nouveau samedi de mobilisation.
Et ce, alors que la justice se prépare aujourd'hui et demain à 2 journées hors normes.
Après de nouvelles violences avant-hier, nombre record d'interpellations. Près de 2000 en France, 1700 gardes à vue. Des gardes à vue dont plus de la moitié ont été classés sans suite. À Paris, 494 sur 974. Des avocats dénoncent des interpellations préventives sans infraction. Toutefois, 278 personnes ont été déférées. Le tribunal de Paris se prépare à 2 jours de comparutions immédiates massives. 5 salles d'audience contre 3 d'habitude seront ouvertes. 4 fois plus de magistrats pour étudier les dossiers. Les suspects comparaîtront pour vol, mais aussi pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Les conséquences sur le commerce et l'économie, le ministre Bruno Le Maire s'alarme, je cite, d'une catastrophe importante, manque à gagner due à la fermeture totale des magasins samedi. Moins 20 à 25% de chiffre d'affaires selon les professionnels. Des samedis noirs, alors ce sont les dimanches qui verdissent. Les boutiques sont ouvertes et tentent de limiter les pertes à 2 semaines de Noël. Justin Morin.
À 2 pas des grands magasins, la vitrine de la boutique de Christophe est encore recouverte d'une protection noire. Mais une petite affiche vient rappeler que le magasin est bien ouvert. À l'intérieur, le commerçant essaie de positiver.
Une ouverture du dimanche représente 10% de ce qu'on aurait dû faire le samedi, donc des pertes sèches. Maintenant, tout est mis en œuvre pour justement essayer de booster le chiffre d'affaires, les intéressements des vendeurs, des vendeuses et de garder en tout cas un bon dynamisme.
Même combat dans les grands magasins voisins, pas de chiffre officiel pour ce dimanche, mais on nous parle d'une bonne fréquentation. Sylvie, un peu en colère, a les bras remplis de sacs pour ses courses de Noël.
Pas fini, mais faut bien prévoir parce qu'on se doute que samedi prochain, ça va recommencer.
Esther et David préfèrent le prendre avec le sourire.
On essaye de se rattraper.
Bah oui, vraiment.
Vous êtes en retard dans les cadeaux?
Mais on n'a rien fait. On n'a rien acheté. De tous les week-ends depuis 3 semaines, ils sont jaunes, des yellow days. On ne pouvait rien faire, donc on n'a que le dimanche pour se rattraper. Donc voilà, on est venu un peu tard, je crois, parce que vraiment, ça a été pris d'assaut. mais on va essayer de se rattraper quand même un petit peu.
Le couple se rassure, il reste du temps avant Noël, mais il ne serait pas contre une journée de mobilisation plus calme samedi prochain.
Le reportage Europe 1 signé Justin Morin. Les réponses d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes, allocution ce soir 20h à suivre sur Europe 1. Puis édition spéciale jusqu'à 21h.
Europe 1, il est 5h04.
Dans l'actualité également, Carlos Ghosn devrait être mis en examen.
Et resté en prison à Tokyo, la période de sa garde à vue japonaise arrive à son terme. Il devrait donc être inculpé pour dissimulation fiscale. Et puis le soulagement en Corse, plus de vigilance météo. L'île avait été placée en alerte rouge au vent violent. L'alerte a été levée vers 22h. Les vents ont tout de même soufflé fort, hein, entraînant la fermeture de certains marchés de Noël, notamment 1500 foyers étaient hier soir privés d'électricité.
Et à l'heure de passer au journal des sports, je crois qu'on peut vraiment saluer Jérôme Lacroix, pionnier en France d'une nouvelle discipline qui devrait séduire un large public amoureux de grands espaces, le parapente naturiste.
C'est super joli, hein. Super joli. Je vais faire des vidéos.
Allez Gégé, on passe au journal des sports. À la une, des Françaises déçues mais qui gardent la main.
Ce sont les Bleus du handball accrochés hier après-midi à Nantes pour l'avant-dernier match de la seconde phase du championnat d'Europe. 21 partout face aux Suédoises. Après plusieurs prestations de haute volée, les Françaises sont redescendues un peu de leur nuage. Elles ont vraiment sauvé ce résultat nul après avoir été menées au score toute la partie. Mais voilà qui n'hypothèque pas leur chance de demi-finale. La donne est simple. Une victoire mercredi, dernier match de groupe face aux Serbes, et ce sera bon pour le dernier carré. Équation intégrée par la joueuse Alison Pinault.
Si on avait gagné cet après-midi, on aurait pu peut-être dire qu'on avait peut-être un pied en demi. Voilà, c'est pas le cas, donc il va falloir se battre jusqu'au bout. Et rendez-vous mercredi contre la Serbie pour un quart de finale, je l'espère.
Des propos recueillis par Christophe Lamar. France-Serbie donc pour une demi-finale de l'Euro de hand féminin mercredi 21h. Côté garçon, les joueurs du PSG remportent le match décisif et passent premier de la D1. Victoire 32-24 à Montpellier, c'était hier soir. En match en retard de la 7e journée, les Montpellierains sont eux 3e.
Le foot et Madrid a dansé cette nuit.
Oui, au son de la Copa Libertadores, vous savez, l'équivalent de la Ligue des Champions pour l'Amérique du Sud. Finale retour entre deux clubs argentins de Buenos Aires, archi-rivaux pourtant. Les supporters ont cette fois fait la fête dans une ambiance bon enfant. C'était River Plate contre Boca Juniors et River Plate l'a emporté 3-1. Il a fallu délocaliser la rencontre en Espagne après des violences entre supporters. La rencontre initiale avait été reportée 2 fois. Le foot en France, ce sont 2 résultats nuls. 1 partout entre Lille et Reims, 2 partout entre Strasbourg et Caen. Au classement, Lille 2e, Strasbourg 8e, Reims 11e et Caen 18e.
On termine avec le chiffre du jour.
80, comme le total spectaculaire de points inscrits par les joueurs de rugby du Racing 92 lors de leurs 2 dernières rencontres de Coupe d'Europe. 44 contre les Irlandais d'Ulster le 20 octobre et hier, 36 points passés aux Anglais de Leicester. 36-26 score final des Franciliens en tête de leur groupe. 3 matchs, 3 victoires dans cette Coupe d'Europe. Ça va moins bien en revanche pour les Castrais, battus 30-5 chez les Irlandais du Munster.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, pionnier, je le rappelle, de cette discipline encore confidentielle, le parapente naturiste. Il faut en faire la promotion, Jérôme. Vous avez un slogan ?
À quel bonheur de vivre à poil, rien ne vaut le nu intégral, mais ton salaire, ouais, nos attributs, vivons heureux.
Bien joué, bien joué, c'est pas mal.
Europe 1. Il est 5h07, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de vie, beaucoup en rêve, peu le font. À 5h10 dans Fallait oser, Europe 1 vous fait découvrir ceux qui ont eu le courage de franchir le pas. Aujourd'hui, Marie-Sophie, une actrice devenue chef.
Mathieu Noël sur Europe 1. Et si on parlait Renault Occasion ?
Chérie, montre à Martin nos photos de vacances.
Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud.
Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio.
Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion.
Ah oui, on peut pas la rater là.
Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, l'heure de faire un premier point sur la météo avec vous Céline Dacosta. Encore beaucoup de nuages ce matin.
Oui c'est vrai, ça sur les trois quarts du pays, le soleil brillera largement sur la Bretagne et les Pays de la Loire, près de la Méditerranée aussi, mais pour les autres, les averses seront ponctuelles et il neigera sur les reliefs à basse altitude. Une amélioration sur l'ouest hein, cet après-midi avec le soleil qui va gagner toutes les régions de la Bretagne, Normandie à la région Midi-Pyrénées. Soleil aussi sur les Pyrénées, des Pyrénées aux Alpes du Sud et sur la Corse. Encore des nuages et des averses pour les autres avec de temps en temps un rayon de soleil quand même. Et les températures commencent à baisser mais restent toujours au-dessus des normales de saison avec une moyenne cet après-midi de 7 à 17 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva Rock.
Oui, chaque année, vous savez, les chaînes de télé diffusent le film de Noël comme Love Actually ce soir sur W9. Alors vous, quel est votre film de Noël, celui que vous connaissez par cœur, que vous pouvez voir et revoir? C'est la question.
Le Père Noël est une ordure, question suivante.
Mais oui, c'est la question qu'on a posée à nos auditeurs et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous avez raison Mathieu, Monsieur Nobody et Sergio nous ont dit Le Père Noël est une ordure. Alors c'est la pièce de théâtre pour Monsieur Nobody et le film pour Sergio. Et puis Jérémy et Aurélie nous ont dit on adorait regarder Maman j'ai raté l'avion et aujourd'hui on le regarde avec nos enfants, ah oui, bien évidemment. Et Aurélie nous dit qu'elle adore aussi The Holiday, vous savez, la comédie romantique avec Kent Winslet, Cameron Diaz et Jude Law aussi.
J'ai croisé Macaulay Culkin cet été dans une soirée, je peux vous dire, il a un peu changé le petit.
Le petit de Maman j'ai raté l'avion,
oui,
vous avez raison.
Oui, le petit de Maman j'ai raté l'avion.
C'est vrai.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et à 5h10 chaque matin, qu'est-ce qu'on dit Eva?
Waouh!
Oui. Michael lui-même nous exhortait à changer, d'enfaler oser, on donne la parole à ceux qui l'ont fait, ceux qui ont changé de vie. Aujourd'hui, Marie-Sophie, elle, actrice fétiche de Claude Lelouch, notamment dans Itinéraire d'un enfant gâté, La belle histoire ou encore Tout ça pour ça, elle a quitté les plateaux ciné pour devenir chef Raw. Qu'est-ce que c'est chef Raw? Spécialité culinaire, cuisiner du cru et que du cru. Un changement professionnel et personnel.
Fallait oser. Quand j'ai découvert cette raw food, j'ai mangé cru du jour au lendemain après un long jeûne qui m'a permis de faire le silence dans mon organisme et d'entendre, un peu comme Jeanne d'Arc, l'appel du cru. Donc je me suis mise à manger cru, j'ai été dans les écoles en Californie pour apprendre à manger cru. Et c'est vrai que cette nourriture a changé ma vie et j'ai changé ma vie pour créer des recettes et les mettre en équation de façon très gastronomique comme elles n'avaient jamais été mises en équation.
Marie-Sophie, elle a donc changé de vie. Elle a créé un menu raw à la carte de l'Alcazar, un restaurant parisien. Elle propose également des formations sur son site internet l'instantcru.com.
Oui, alors un site sur lequel elle vend également son produit phare au nom emblématique La Bonne Foi.
C'est le premier produit que j'ai créé, que j'ai fait fabriquer dans un laboratoire bio, artisanal. Et Ma Bonne Foi, c'est un hommage au végétal, puisque ça rappelle furieusement le goût du foie gras, surtout pour les amateurs de foie gras qui l'apprécient particulièrement. C'est aussi une proposition géniale pour les végétaliens, pour les véganes. Et c'est un hommage au végétal. Elle convoque les sens d'une façon très étonnante. C'est vraiment une proposition culinaire totalement inédite. Je l'ai fait goûter à tous nos grands chefs. Le dernier en date, c'est Marc Vera qui l'a goûté et qui est tombé amoureux de ce produit. Mais lui aussi, c'est un loyal sujet du règne végétal. Donc on a tout pour s'entendre.
L'esprit créatif de Marie-Sophie, elle, se concrétise désormais donc en cuisine. Une nouvelle vie qui pourrait toutefois apparaître dans un prochain film de Claude Lelouch.
Et oui, et puis si vous aussi, votre vie a changé, que vous voulez nous faire partager votre expérience, vous nous envoyez un petit mail ou un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h11, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui sautille gaiement entre la fantaisie et l'info. À suivre, si comme moi ce matin, quand votre patron vous a demandé comment ça allait, vous lui avez répondu
comme un lundi, je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler.
J'ai ce qu'il vous faut pour vous monter le moral. Ça s'appelle Lundi les bons tuyaux et le principe est simple. Je sélectionne pour vous les meilleurs éléments du service culture d'Europe 1. Ils se pointent et ils vous donnent leurs conseils et idées cadeaux précieux à quelques jours des fêtes. Et puis, tout aussi précieux est votre santé. C'est pourquoi, mieux vaut prévenir que guérir, j'ai calé pour vous chaque matin un rendez-vous avec le docteur Ichou qui ce matin vous alertera sur une maladie qui touche souvent les enfants et surtout les petits-enfants. Il y en a beaucoup en ce moment, la bronchiolite. Comment la diagnostiquer? Comment la soigner? Le docteur Ichou vous dit tout. Mais dans un premier temps, vous le savez, je crois beaucoup aux vertus de la musicothérapie. Et autant certaines chansons, interprétées à la va-vite par des non-professionnels, peuvent faire beaucoup de mal.
Mélissa, Mantis, se dit Bissa, vite toujours des vêtus.
Autant une belle chanson, bien interprétée par des gens qui chantent juste, peut faire beaucoup de bien.
Il est 5h15. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h sur la crise des gilets jaunes. L'Élysée promet des annonces en faveur du pouvoir d'achat, mais a priori pas de retour de l'ISF ni de coup de pouce au SMIC, deux des principales revendications pourtant des gilets jaunes. Avant les annonces, Emmanuel Macron reçoit toute la journée à l'Élysée chefs de file syndicaux, patronaux, les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale ainsi que des élus locaux sont attendus au palais présidentiel à partir de 10h. Le tout après de nouvelles violences avant-hier, nombre record d'interpellations, près de 2000 en France, 1700 gardes à vue à Paris, 278 personnes ont été déférées. Le tribunal se prépare à deux jours de comparutions immédiates massives.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce lundi 10 décembre et soudain, le temps s'arrête. Car un cavalier surgit dans le lointain, un expert des chevaux,
longtemps.
Il les connaît tous, il sait sur qui miser. Chaque matin, je lui confierai ma bourse, sans l'ombre ni d'hésitation. Voici Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Caen-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 206 Côte d'Azur. Originaire de Chantilly, je sais qu'elle a été préparée avec soin et minutie en vue de ce meeting d'hiver sur les bords de la Riviera où depuis son arrivée, elle affiche gaieté et bien-être. Ménagée depuis plusieurs semaines et taillée pour réussir sur l'hippodrome de Caen-sur-Mer, elle devrait donc pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Alors notez bien, pour cet après-midi à Caen-sur-Mer, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 6, Côte d'Azur.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et à l'heure d'ouvrir cette séquence conviviale où tous les membres de la colloque DLC se retrouvent à la table du petit-déj pour deviser sur le monde tel qu'il va, un journal à la main, j'aimerais répondre à cette question qu'on me pose souvent. D'où vous vient votre inépuisable bonne humeur? Eh bien je dirais sans détour, la musique. Ici, on en est tous férus.
Miles J'ai eu
Davis,
peur.
Vous avez eu peur de quoi?
Non,
même moi, je ne l'ai pas vu celle-ci.
Oui, non, allez-y.
Non, la musique, c'est ça notre,
oui,
notre
c'est
atout.
Vrai.
Ici, on en est tous férus. Miles Davis pour Eva, Julien Clerc pour moi, Cool and the Wind and Fire pour Céline.
Oui, c'est ça.
Un mix entre Cool and the Gang et Earth, Wind and Fire. D'où ce mot des voisins retrouvé ce matin sur le paillasson. Merci de vous préparer en silence, on n'en peut plus.
Ah, c'est dommage.
On n'a pas.
Ah, c'est dommage, c'était bien.
Alors là, je vais vous le faire. Je vais vous le faire à capella. On avait un ensemble de sons, tous les meilleurs moments de notre émission où nous chantons.
Oh mince.
C'est un très très beau son, malheureusement, qui a été perdu probablement.
Entre-temps.
Peut-être qu'il est retrouvé. Est-il retrouvé?
Oui.
Ça va aller.
On va danser toute la nuit.
Changer de vie.
Ma bonnette.
Garde ta bonnette, bébé. Résiste.
Ah bah là, on comprend que les voisins n'en puissent plus. Hein. Oh, on s'est bien chauffé la voix, les amis. On peut sereinement passer au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une ce matin, le temps des réponses, titre La Croix. Le Parisien évoque Emmanuel Macron avec ce qu'il doit changer. Libération aussi avec un titre plus provocateur, Manu entends-tu? Même l'équipe semblait dans le même sens, un choix capital, sauf qu'il s'agit de football. Mais vous, mes incorrigibles fouineurs, qu'avez-vous trouvé dans la presse du jour? On va commencer avec vous, Eva.
Alors samedi, le président turc Erdogan trouvait utile de juger la crise des gilets jaunes.
Ah oui, c'était drôle,
voilà,
ça.
Voilà, critiquant la violence disproportionnée des autorités françaises face aux manifestants. Il est vrai qu'Erdogan a des leçons à nous donner en matière de répression. Alors un président qui devrait quand même faire attention parce que dans son pays, là où les rassemblements sont donc interdits et réprimés, la colère, elle monte aussi sur les réseaux sociaux pour dénoncer le prix de l'oignon. Plus 543% en un an.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je sais, ça fait sourire, mais en fait, c'est le symbole de l'inflation qui ronge le pays. Un blogueur ironise d'ailleurs en écrivant « Les Français ont leurs gilets jaunes, nous avons nos sacs d'oignons », rapporte Delphine Minouy dans le Figaro. Alors, d'un côté, les autorités accusent les agriculteurs d'entretenir une pénurie du légume, qui est à l'origine de cette inflation, et dépêchent des inspecteurs pour saisir les stocks. Et puis, de l'autre, les paysans expliquent que la récolte saisonnière a été mauvaise à cause d'un virus. Il n'empêche, depuis quelques mois, et c'est pour ça qu'ils en parlent dans le Figaro notamment, le chef de l'État doit faire face à sa première crise économique majeure. Pendant des années, la spirale d'investissement, de développement, de gros projets d'infrastructures comme des ponts, aéroports et autoroutes et de crédit à la consommation a boosté en fait l'économie et a doublé le produit intérieur brut. Mais la livre turque, elle a dévissé et donc l'économie se porte mal, très mal. Une crise économique qui s'ajoute à la crise diplomatique, notamment avec les États-Unis, à une crise sociale, à une crise de la presse qui est de plus en plus musée. Alors il reste la toile, les sites internet et puis les réseaux sociaux, parce que c'est là que ça devient en fait un lieu de contestation pour l'opposition qui s'en donne à cœur joie sur cette crise de l'oignon avec tous les jeux de mots possibles et inimaginaux. Évidemment, ne faites pas pleurer.
Tous les mots possibles et inimaginaux.
Oui.
Ah oui.
Pourquoi?
Imaginable peut-être.
Inimaginable.
Oui, je ne sais pas.
Ah, bah, oui, c'est vrai.
À 5 avant, on peut se permettre.
Ouais, mais c'est vrai. Que... Inimaginable.
Je sais pas si jamais les profs de français nous écoutent.
Alors, en tout cas, ne faites pas pleurer l'oignon. Erdogan a décrété que l'oignon était une organisation terroriste. Libérez les oignons. Voici quelques exemples de ce qu'on peut
lire. J'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit, mais je crois
qu'on
ne peut pas les lire.
Mais non, c'est fait exprès. Je ne voulais pas vous tendre cette perche. Ce sont quelques-uns des exemples que vous pouvez lire sur les comptes des leaders des partis d'opposition. Mais, comme on dit, c'est un dossier à suivre parce que ça pourrait donner lieu à une crise plus importante et plus grave en Turquie.
Qui pourrait déstabiliser Erdogan, visiblement.
Vous imaginez, à cause d'un oignon ?
À cause d'un oignon, ça serait chuter à cause d'un oignon.
Mais sinon, il a raison de commenter la crise française. Je pense.
Ah, c'est bien classé,
de sa place. Mais c'est sûr que là-bas, on ne peut pas manifester, donc je crois que c'est plus simple. On ne peut pas y avoir de débordement, assez logiquement.
Aucun.
Céline Dacosta.
Alors moi, je vous parle ce matin du bien-être animal qui est au cœur des préoccupations de beaucoup après les vidéos, notamment postées par l'association L214 qui a mis en avant les conditions désastreuses d'abattage dans certains abattoirs. Et la viande, même si on en mange statistiquement moins aujourd'hui, on a de plus en plus envie de savoir d'où elle vient et comment ont été élevés et tués le poulet, par exemple, parce qu'on va parler de poulet qu'on va retrouver dans notre assiette. Selon un sondage IFOP, 80% des Français se disent préoccupés par le bien-être animal, 70% souhaitent plus d'informations sur le sujet. J'imagine qu'autour de cette table, tout le monde est d'accord avec
surtout
ça.
Surtout que comme je mange du poulet à peu près 3 fois par jour, j'aimerais bien savoir d'où il vient.
Alors, fort de ce constat, de grandes enseignes de distribution se sont penchées sur la question et vous trouverez à partir d'aujourd'hui, dans les rayons de tous les magasins géants casino et supermarchés casino, du poulet étiqueté bien-être animal. Une information claire et fiable car l'enseigne a travaillé pendant 15 mois avec 3 ONG spécialistes de la protection animale reconnues pour leur expertise. Alors cette étiquette que vous trouverez sur l'emballage juste à côté du prix et du poids prend en compte 230 critères, rien que ça, de la naissance à l'élevage en passant par le transport et l'abattage. À la fin, le produit est évalué de A, donc supérieur à D, standard. On regarde si les animaux ont de la place, des perchoirs, un accès à un parcours extérieur. Et pour obtenir les niveaux A et B, les abattoirs doivent par exemple être équipés de la vidéosurveillance. Alors ce projet pour l'instant ne concerne que le poulet et la gamme Terre et Saveur de l'enseigne Casino, mais elle a vocation à s'étendre à toutes les enseignes, à tous les produits animaux, la viande, les produits laitiers, etc. à un niveau national. Espérons que cela se fasse rapidement. Parce que c'est quand même une bonne initiative. Et c'est à lire aujourd'hui dans le Parisien.
Et c'est pas en bio, hein, ça
non, c'est pas non, du bio non, pas spécialement.
C'est pour tout, hein.
Et donc ça va être...
Il faudrait l'étendre à tout.
Mais oui, c'est
ça.
Les... Donc ça va se faire, on l'espère, assez rapidement au niveau national et pour tous les produits, parce que là, ça concerne que le poulet et l'enseigne géant casino.
Comment s'appelle ce score A à D ça s'appelle comment?
Alors, en fait, il n'y a pas de nom. L'étiquette, c'est le bien-être animal.
Bien-être animal, voilà. on verra le petit logo de A à D.
Oui, c'est une petite étiquette.
Oui, on va plus rien comprendre. Entre Nutri-Score.
Non, sur l'étiquette, il y a marqué bien-être animal et puis il y a la petite notation de A à D juste à côté du prix et du poids.
On va y arriver.
Nutri-Score. Je vais regarder. Je donne le petit article. Vous avez un petit exemple comme ça.
Oui, c'est très bien. On ne peut pas se tromper. Le B apparaît en gros. Oui, c'est très
bien. Après, comme ça, on ne se plaint plus de ne pas être informé, mais c'est vrai qu'il faut arriver à s'y retrouver au milieu de tout ça.
C'est vrai.
Il faut un peu bosser. Jérôme Lacroix, qu'avez-vous choisi pour nous ?
Moi, je vous raconte l'histoire du plus grand concert du monde. Aujourd'hui, en France, nous le raconte. Imaginez sur une même scène qui joue 2 concerts, c'est le cas de le dire. 200 batteurs, 60 claviers, 100 instruments avant, 150 bassistes, 270 guitaristes et 320 chanteurs. Ça fait 1000 personnes de la scène nationale d'Évreux, donc en Normandie, qui vont tenter le 23 juin prochain d'établir le record du plus grand concert de rock du monde.
Alors, le plus grand concert de rock avec des gens sur scène, pas de gens dans la salle.
Il y aura plus de monde sur scène que dans la salle. Oui, presque. Alors, on ne sait pas parce que ce sera un concert unique, il ne faut pas le rater. Il y aura des participants de tous les âges et ce sera gratuit. Donc peut-être que
mais c'est où est-ce que le lieu peut accueillir beaucoup de monde?
Oui, ce sera à Évreux, au Palais des Congrès d'Évreux. Depuis des semaines, chaque pupitre, on va dire, tous les instrumentistes répètent dans leur coin. Et les répétitions en groupe ont démarré ce week-end, donc au Palais des Congrès d'Évreux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ce sera des standards de rock, The Cure, les Beatles, Led Zeppelin, et puis bien sûr le très classique I Love Rock'n'Roll. 8 morceaux grand public, dont chacun en fait est censé correspondre à une décennie du rock. Alors, les répétitions vont durer 6 mois, ça démarre aujourd'hui, et pour cause, imaginez le travail de coordination nécessaire à la bonne marche du projet.
On le voit ici quand on essaye de chanter Mélissa. Alors
quand
franchement, 1000 instruments.
Ensemble, voilà. Surtout du côté des batteurs, parce que c'est eux bien sûr qui supportent tout l'édifice musical. Alors à l'échelle du département de l'Eure, c'est un événement, raconte Raphaël Parès, l'un des organisateurs, parce que depuis le mois de septembre, toutes les écoles de musique locales ont été sollicitées pour recruter les participants. Il y a eu des castings, des auditions, des participants qui ont donc ce but concret, voir le concert officiellement homologué au prestigieux Guinness Book des records. Et il est actuellement détenu par un ensemble chinois. En 2016, 151 batteurs, 100 claviers, 98 instruments avant, 154 guitaristes, 101 bassistes et 349 chanteurs s'étaient produits. Alors là, ça fait 953 personnes de l'Académie de Pékin.
Allez, 7 de plus.
À Évreux. Ah non, plus, parce qu'ils visent 1000.
Ah, oui, 1000.
Ah oui, pardon.
Ils visent 1000, ouais, à Évreux. Rendez-vous donc le 23 juin pour que la France, en fait, récupère ce record, puisque le précédent, c'était 520 musiciens établis en 2013 par une association française qui s'appelait Musique Révolution. Voilà, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France.
J'ose cette question poil à gratter, mais est-ce que c'est beau?
Est-ce que c'est beau?
Bah, ah oui, oui, qui joue en même temps, ça peut être beau.
J'ai vu une vidéo, c'est impressionnant.
C'est tout le job, ouais.
Et je sais pas combien il y a de chefs d'orchestre
vous,
en
vous nous en parlerez quand ça aura eu lieu. Vous aurez un extrait sonore.
C'est au mois de juin prochain.
Non, là, parce que là, il y a eu que des répétitions. Alors, pour être honnête, il y avait quelques extraits sonores sur Internet des Chinois qui l'avaient fait, mais franchement, c'était pas du tout probant. C'était un truc très monté, très clippé, juste quelques secondes.
Et nous ferons mieux, les Français feront mieux.
Cocorico d'agence. Voilà.
Merci Jérôme, le pressing, notre revue de presse en mode zapping referme ses portes. Avec ce bruit si caractéristique, comment il fait Céline?
Le vol en soufflerie, vous savez, comme ça là.
Non, il y a une petite erreur sur le son, c'est pas grave, mais c'était très bien aussi. Puisque ma chute était comme le vol en soufflerie.
Fonctionne.
Non, ça ne fonctionne pas, mais vous êtes bon public, c'est ça que j'aime chez vous.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Détoxifiant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, on fait un point sur la météo du jour. Quel temps pour ce 10 décembre? Retour au calme après un week-end assez agité.
Oui, surtout avec le vent, hein, mais qui se calme dans le sud-est. Toutes les vigilances ont été levées cette nuit. On aura encore quelques bonnes rafales ce matin. Sur les Alpes, les côtes varoises jusqu'à 90 km à l'heure. Ça va encore faiblir dans l'après-midi. Côté ciel, du soleil, près de la Méditerranée. Mais aussi sur la Bretagne, les Pays de la Loire ce matin. Partout ailleurs, beaucoup de nuages encore et des averses ponctuelles. De la neige sur les reliefs de l'Est et sur le Massif central. Pour les températures, ça baisse par rapport à ce week-end, mais on reste encore un peu au-dessus des normales de saison, avec une moyenne de 5 à 12 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée, puisqu'on va jusqu'à 17 à Bastia.
On aura un peu plus de soleil sur l'ouest cet après-midi.
Oui, toute la moitié ouest profitera de larges éclaircies, la pointe nord aussi, les côtes méditerranéennes et la Corse. En revanche, ça restera bien nuageux pour les autres, avec encore des averses, de la neige sur les reliefs, peut-être quand même quelques éclaircies. Côté température, on attend 7 degrés à Besançon, 8 à Metz, 9 à Lille, 10 degrés au Havre et à Paris, 11 à Cherbourg, 12 à Brest et Toulouse, 14 à Bordeaux, 15 degrés pour Montpellier, 17 à Nice et 19 la maximale pour Bastia.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à mi-chemin de l'info et du rire, mais au carrefour de la bonne humeur, avec pour faire la circulation mes deux gendarmettes adorées. Eva Rock et Céline Dacosta. Dites-moi Céline, vous avez fait des acras de morue ce week-end?
Moi j'adore ça, mais après tout le monde râle parce que ça pue pendant 2 jours.
Ah oui, je vous confirme, hein. À suivre, un week-end s'achève, qu'on pense déjà au suivant. Dieu que nous sommes coquins. Disques, BD, objets connectés, nos spécialistes culture et nouvelles technologies vous aident à remplir votre caddie pour Noël sans vous ruiner dans lundi les bons tuyaux. Et puis attention Eva, elle est de retour.
C'est Céline Dion?
Non, la bronchiolite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne frappe pas que les grands messieurs affublés d'une cape et d'un masque noir chelou, mais plutôt les enfants en bas âge. Comment l'éviter? Comment la guérir? Peur n'ayez pas, foi en la médecine ayez. Le docteur Ichou arrive.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. Mathieu Noël.
Les infos de ce lundi 10 décembre 2018. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
L'intervention très attendue d'Emmanuel Macron ce soir. Le président doit annoncer des mesures en faveur du pouvoir d'achat après un nouveau samedi de manifestations et de violences. Casseurs, fauteurs de troubles, au tribunal de Paris, comparution en série à partir d'aujourd'hui. 5 salles d'audience mobilisées pendant 2 jours. Et puis ça sent l'orage pour Theresa May. La première ministre britannique va tenter de sauver l'accord du Brexit qui pourrait être retoqué par le Parlement demain.
Europe 1.
Plus que jamais, la parole présidentielle est attendue. Emmanuel Macron s'exprimera depuis l'Élysée à 20h. Après la nouvelle mobilisation de samedi, 136 000 personnes dans la rue et de nouveaux débordements, le président doit annoncer des mesures concrètes et immédiates. Il passera d'abord la journée à recevoir les partenaires sociaux et les élus. Samedi, plus de 1700 personnes au total ont été arrêtées, 1 000 placées en garde à vue. Si de nombreux suspects ont été depuis remis en liberté, certains vont se retrouver face à la justice dès aujourd'hui. C'est le coup d'envoi de 2 journées de comparution immédiate vraiment hors norme. Pierre de Cossette.
En temps normal, au tribunal de Paris, 3 salles d'audience suffisent à gérer les comparutions immédiates. Mais cette fois-ci,
il y en aura 5 et 2 jours de suite. Et encore, ce n'est pas tout. Certains prévenus seront envoyés vers des tribunaux de petite couronne à Bobigny, Créteil et Nanterre pour y être jugés. Ce week-end, le parquet a fait venir 4 fois plus de magistrats que d'habitude pour examiner les dossiers et trancher, remettre en liberté certains gardés à vue en classant les affaires sans suite, prolonger ces gardes à vue ou poursuivre, avec au choix des convocations ultérieures devant le tribunal, des ouvertures d'enquête confiées à des juges d'instruction ou donc des comparutions immédiates. La semaine dernière, il y en avait eu une centaine, 26 d'entre elles s'étaient conclues par de la prison ferme, mais 20 s'étaient soldées par des relax. Cet après-midi et demain, à l'audience, on jugera des vols comme des montres de luxe ou des jets de projectiles sur les forces de l'ordre avec ce buraliste Duchère qui risque d'y laisser son emploi. Certains dossiers s'annoncent houleux avec des avocats très remontés contre des gardes à vue qu'ils estiment abusives.
Pierre de Cossette, selon le procureur, le profil des personnes arrêtées, c'est un homme de moins de 40 ans, sans antécédent judiciaire, issu de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche ou alors un jeune motivé par le pillage des commerces. À ce propos, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui est allé rendre visite à des commerçants parisiens hier, a promis des réponses très directes aux entreprises touchées. Il parle de catastrophe pour notre économie. Selon le représentant de la Fédération du commerce et de la distribution, le manque à gagner serait supérieur à 1 milliard d'euros.
Oui, et édition spéciale hein, ce soir sur Europe 1 entre 20h et 21h avec la retransmission en direct de l'allocution d'Emmanuel Macron suivie d'un débat.
Europe 1, il est 5h33.
Le vent a soufflé très fort hier en Corse.
Toutes les manifestations culturelles et sportives ainsi que les marchés de Noël et foires avaient été annulés par mesure de précaution. L'alerte rouge avait même été déclenchée. Hier soir, seuls 1500 foyers étaient encore privés d'électricité. À Nice, 4 personnes ont été légèrement blessées au marché de Noël dans la chute d'une structure métallique. Nouvelle journée importante pour Carlos Ghosn au Japon. La garde à vue de celui qui était le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi prend fin après 3 semaines. Selon toute probabilité, il devrait être inculpé pour fraude fiscale et rester en prison pour une nouvelle période de garde à vue qui pourra atteindre 22 jours.
Au Royaume-Uni, c'est une semaine décisive qui s'ouvre à la fois pour le Brexit et pour Theresa May.
Oui, demain, les députés britanniques vont voter sur le traité de retrait de l'Union européenne négocié pendant 17 mois avec Bruxelles. La première ministre affronte une rébellion sans précédent dans ses rangs. Ce week-end, ses ministres auraient tenté de la convaincre de reporter le vote pour éviter un raz-de-marée contre. Mais elle maintient l'échéance à Londres, Anaïs Cordoba.
Pour Theresa May, c'est la chronique d'une défaite annoncée. Sa fragile majorité a volé en éclats. Pro et anti-Brexit confondus, ils sont désormais une centaine de députés conservateurs opposés à son accord. Parmi eux, Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères et chef de file des Brexiteurs. Hier, il est apparu à la télé anglaise avec une nouvelle coupe de cheveux, signe pour certains observateurs qu'il est déjà candidat au 10 Downing Street.
Après avoir lutté, après avoir fait campagne, ça me désole de constater que nous allons souscrire un avenir dans lequel l'Union européenne va nous imposer ses lois dans beaucoup de domaines. Et nous n'aurons pas notre mot à dire à Bruxelles. C'est une absurdité. Nous ne pouvons pas continuer dans cette direction.
Sur une chaîne concurrente, une autre ministre démissionnaire, aujourd'hui dans le camp des frondeurs, enjoint Theresa May à renégocier.
La première ministre doit retourner à Bruxelles immédiatement et ramener un meilleur accord. Nous devons reprendre le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre argent, de notre souveraineté.
Theresa May, elle, s'est contentée de lancer cet avertissement aux rebelles. Un rejet de mon accord pourrait provoquer une annulation du Brexit, ainsi que l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du pays. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Merci. C'était le journal d'Hélène Zeleny, précisons.
C'était moi-même.
C'était vous-même. Merci beaucoup, Hélène, pour ce journal. Les filles, qu'est-ce qu'on dit à Hélène pour lui donner le moral ?
Je vous souhaite un bon week-end.
Oui, c'est vrai, si on y réfléchit, il n'y a plus que 5 jours avant le week-end. C'est vrai. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Voici Jérôme Lacroix pour le journal des sports.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Ah oui, plus 5 jours finalement. On peut déjà
je pourrais être Jérôme Lacroix.
Ah, Jérôme Lacroix aussi. C'est Céline qui devrait dire bonne nouvelle.
Mais oui, mais
sans l'ironie.
À la une, une fièvre foot s'est emparée de Madrid.
Oh ah non. Ah oui. Ambiance hier et cette nuit dans les rues de Madrid. Je précise, crédit, Henri de la Guérée, Europe 1.
Ah, ça c'est un vrai, sûr. Son, là, pour le coup,
ambiance toute Argentine, oui, parce que c'était l'événement foot, se tenait dans la
oui,
capitale.
Oui, à mon avis, Henri, il était plutôt dans un bar à tapas.
Bah oui, alors.
Oui.
C'était la finale retour de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Et cette année, deux clubs de Buenos Aires, vraiment très très rivaux, s'affrontaient. River Plate, le nord de Buenos Aires, contre le plus au sud et populaire Boca Junior. Et c'est River Plate qui l'a emporté 3-1. Et la rencontre se tenait à Madrid pour raison de sécurité, parce que par deux fois en Argentine, ce match il a été reporté en raison d'affrontements entre fans. Mais cette fois en Espagne, pas de heurts, Henri de la Guérie.
Une fête comme seuls les Argentins savent en faire, une véritable marée humaine rouge et blanche a envahi la Puerta del Sol de Madrid cette nuit. Ces Argentins, pour la plupart résidents en Espagne, se prennent dans les bras, ils chantent sans jamais s'arrêter. Certains pleurent d'émotion. Pendant 120 minutes, ils ont souffert. La peur de perdre ce super classico a paralysé River lors de la première mi-temps, qui a encaissé le premier but avant d'égaliser à la deuxième mi-temps, puis d'inscrire le deuxième et troisième but lors des prolongations. Écoutez Dario qui a fait le déplacement depuis Buenos Aires.
Gagner une finale face à Boca, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je ne peux rien demander de plus. C'est la plus belle chose que j'ai vécue de toute ma vie. La fête va se poursuivre jusqu'à ce qu'on rentre à Buenos Aires, mercredi ou jeudi.
Et c'est aussi ce qu'on retiendra. Cette finale et les célébrations, très encadrées par la police, se sont déroulées sans le moindre incident.
Et on attend le retour de la Coupe à Buenos Aires. Le foot en France, ce sont les deux résultats nuls entre Lille et Reims, un partout, et entre Strasbourg et Caen, deux partout. Le handball et les Françaises à une victoire d'une demi-finale de l'Euro. Il faudra aller la chercher mercredi 21h face aux Serbes. Hier, ces tricolores ont sauvé de justesse un résultat nul, 21 partout face aux Suédoises.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Oui, j'ai choisi Quentin Fillon-Maillet, jurassien, 26 ans, biathlète. Et c'est rare quand on peut parler d'un autre Français que la méga vedette du biathlon, Martin Fourcade. Quentin Fillon-Maillet, il a fini hier deuxième de la poursuite en Slovénie, première étape de la saison de Coupe du Monde. Et ça s'est joué vraiment à la photo finish face au surpuissant norvégien Johannes Bø, qui s'est finalement imposé. Fourcade, lui, n'a même pas fini la course. Abandon au lendemain déjà d'une très décevante 24e place sur le sprint. Et Fourcade, il l'avoue, eh ben, il ne sait pas d'où provient sa méforme.
On ne comprend pas trop passe dans mon corps. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une méforme passagère? Je suis intimement persuadé que ça va passer. Après, j'espère que c'est quelque chose qui passera cette semaine et pas dans un mois.
Martin Fourcade, joint par Cyril de la Morinerie.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme qui, d'après les échos qui me sont arrivés, aurait enfin conclu avec Céline Dacosta ce week-end.
Je crois qu'on avait rompu.
Plus de 3 mois, oui ça va trop vite. Plus de 3 mois après leur premier rendez-vous. Alors Céline savait que vous étiez timide, mais à ce point, Gégé, elle est vraiment tombée des nues samedi soir.
Tu es vierge?
Tout ça pour ça.
Tout ça pour ça.
Je savais que ça allait ressortir.
Ah, oui, c'est sûr.
Comme vous dites.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui allie rigueur journalistique et souplesse zygomatique afin de vous offrir chaque matin un réveil aussi informé qu'enjoué. À suivre, une équipe de choc. À l'heure où le pouvoir d'achat stagne, comment profiter de la culture à moindre frais? Musique, ciné, nouvelles technologies, nos experts vous ont dégoté les bons plans, ils vous en font profiter dans lundi les bons tuyaux. Et puis, si votre enfant tousse depuis plusieurs jours, une toux qui a tendance à s'accentuer, ayez le bon réflexe, Eva.
Raclette ou tartiflette ou soupe à l'oignon.
Non, non, Eva, consultez un médecin car c'est peut-être la bronchiolite. L'épidémie est là, heureusement, le docteur Ichou aussi.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, faisons un point sur la météo, si vous le voulez bien. Une journée, ma foi, une journée où le vent se calme, dans le sud-est en tout cas. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est très précis. J'étais surpris par la précision de ce premier lancement. On est dans le sud-est.
Oui.
Probablement.
Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vent ce week-end dans le sud-est. En Corse notamment, on a eu même une vigilance rouge qui a été levée. D'ailleurs, toutes les vigilances ont été levées cette nuit. On a encore quelques bonnes rafales ce matin près de la Méditerranée sur les Alpes, 90 km à l'heure. Mais cet après-midi, le calme sera revenu. Le soleil sera présent sur ce secteur toute la journée. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire ce matin également. Et puis s'étendra à toute la moitié ouest pour cet après-midi. Pour les autres, c'est encore un ciel couvert avec des averses ponctuelles. Quelques rayons de soleil possibles, le tout sous des températures qui iront de 7 à 17 degrés du nord au sud pour cet après-midi avec 10 degrés à Paris. Ce matin, la moyenne va de 5 à 12 degrés. On est encore un tout petit peu au-dessus des normales, puis ça va commencer progressivement à baisser les journées les plus froides, mercredi et jeudi pour cette semaine.
Merci Céline. On me dit en régie, petits auditeurs. Oui. J'imagine Eva que vous sélectionnez les auditeurs uniquement de petite taille.
Exactement, c'est ça. Chaque année, les chaînes de télévision diffusent le film de Noël comme Love Actually ce soir sur W9. Et vous, quel est votre film de Noël? C'est la question qu'on a posée sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Eh bien, pour Gecko, pour The One, pour Romarix, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton que vous regardez apparemment tous en famille avec vos enfants. Voilà, c'est une des réponses qui revient le plus souvent. Merci pour vos messages. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
5h41 sur Europe 1, lors de notre page santé avec le docteur Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Les consultations aux urgences pour des bronchiolites du nourrisson se sont multipliées dans tous les départements français ces derniers jours. On nous parle d'épidémie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, docteur Ichou?
Alors, c'est une épidémie, comme chaque année. Elle revient, hein, c'est comme le Beaujolais.
Oui, mais en moins.
Mais en moins agréable. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce que dans la plupart des cas, c'est une maladie, une épidémie, c'est un peu une toute petite bronchite qui n'est pas grave, dans la plupart des cas. On doit se surveiller, s'inquiéter si les enfants sont atteints d'une autre pathologie, qu'ils sont tout petits ou fragilisés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une toux, un rhume. Parfois, il y a une difficulté d'alimentation. Là, c'est un des éléments...
Ça, c'est un des éléments clés de la bronchiolite.
Des éléments qui doivent nous faire alerter. Dans la plupart des cas, vous consultez votre médecin. Et c'est difficile à dire, mais c'est l'abstention. L'abstention thérapeutique, c'est-à-dire surtout pas de sirop pour la toux, parce que le sirop pour la toux arrête la toux, donc empêche les sorties de mucus. Donc pas de sirop pour la toux, pas d'antibiotiques et pas de cortisone. Donc vous voyez, l'abstention thérapeutique, évidemment les mesures d'hygiène, on mouche, on nettoie, on lave, pas de tabagisme et on aère. Ça a l'air d'aller de soi, mais ça ne l'est pas. Hein. Et donc, à part ça, s'il y a une aggravation, là déjà, on doit commencer par la première mesure qui est la kinésithérapie respiratoire.
Le clapping, là, c'est
ça. Le clapping,
c'est...
voilà, qui affole
quoi,
les parents.
Très impressionnant. Ça affole les parents, ça.
Ça affole les parents parce qu'on essaye, par des mesures de stimulation de la bronche, de faire tousser et d'expectorer. Mais comme c'est plein de mucus, le petit bébé... s'étouffe,
il émet des bruits
respiratoires extrêmes, il pleure, et pour les mamans, c'est insupportable. Et donc, voilà globalement ce qu'il faut faire. Hospitalisation, vraiment, dans les cas extrêmes, mais la plupart du temps, c'est une maladie bénigne.
Merci, docteur Ichou. On se retrouve demain, 5h40.
Europe 1. Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures journalistiques comiques au service de votre information et de votre bonne humeur. À suivre justement lundi les bons tuyaux, la culture sur un plateau mais à prix réduit. Au programme notamment ce matin, un coffret cadeau réunissant les plus belles chansons de Disney. Mais avant cela, une parenthèse musicale, Céline. Non, avec des professionnels, s'entend, non.
Il est 5h47. L'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h sur la crise des Gilets jaunes. L'Élysée promet des annonces en faveur du pouvoir d'achat, mais a priori pas de retour de l'ISF ni de coup de pouce au SMIC, deux des principales revendications des Gilets jaunes. Carlos Ghosn devrait être mis en examen et rester en prison à Tokyo. La période de sa garde à vue japonaise arrive à son terme. Il devrait donc être inculpé pour dissimulation fiscale. Enfin, les handballeuses françaises ne sont plus qu'à une victoire d'une demi-finale de l'Euro. Ça se jouera mercredi contre la Serbie. Hier, les tricolores ont obtenu de justesse un résultat nul, 21 partout face aux Suédoises.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 10 décembre. Et voici venu l'heure, amis amateurs de courses, de paris et de sensations fortes, de retrouver le spécialiste hippique d'Europe 1, José Covès. Dites-moi, José, c'est une bonne situation, ça, spécialiste hippique d'Europe 1 ?
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Oui.
Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose,
José, allez, on y va. Bonjour, José Covès.
Bonjour à tous, on fait un saut sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce sont les 16 spécialistes au départ de la deuxième course. Pour être raccord, je mettrai en tête Côte d'Azur, le numéro 6, avec un nom pareil. Elle doit se faire une place au soleil. Le 5 Clamigo va se souvenir qu'il est le tenant du titre, il est sur son meilleur tremplin. La montée en puissance de Grand Trianon le 8 arrive au bon moment. Toute la préparation du numéro 12, Pagomix, a été axée sur ce meeting canois. Il est prêt. Quant au 7, la Limagne, à Cagnes-sur-Mer, elle se prend pour Pégase. Trois autres possibilités. Le 3, Ciblou, bien luné, il est capable de s'immiscer à l'arrivée. Le 2, Armir, il est sur son meilleur niveau à cette époque de l'année. Et enfin, le 9, Vendelogne, pour pimenter les rapports du Quintet Plus. Voici donc mon ticket pour cette deuxième course vers 13h47. D'abord le 6. Le 5, le 8, le 12 et le 7. Et l'on ajoute le 3, le 2 et le 9.
Mais José, pourquoi la Limagne joue-t-elle les Pégases à Cagnes-sur-Mer ?
À Cagnes-sur-Mer, il faut franchir les obstacles dans la foulée au plus vite, comme en athlétisme sur un 110 mètres haies. Certains chevaux sont dépassés par ce rythme inhabituel, pas la Limagne. Le numéro 7, elle se sent poussée des ailes. Elle n'a jamais connu la défaite sur cette piste.
Magnifique. Merci beaucoup, José Covès.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. et baroque pour les écrans, Thierry Geffrotin pour la musique et pour les nouvelles technologies, le désormais indéboulonnable François Geffrier qui se cramponne comme une moule au rocher. Aujourd'hui, François, vous nous parlerez des derniers progrès dans le domaine de la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, qu'il faut bien le dire, n'est pas encore totalement au point, vu qu'à chaque fois qu'Eva tente d'allumer son iPhone via la reconnaissance faciale, Siri lui dit
« Bonjour José Dayan, comment allez-vous aujourd'hui ?»
Mais non. C'est gratuit, c'est dégueulasse.
C'est gratuit, c'est
qui
dégueulasse.
Qui a eu ce son, c'est monstrueux.
Et on en reparlera ensemble à la sortie de ce studio.
Évidemment. Mais d'abord, prime à l'ancienneté oblige, on commence par celui qui était déjà sur Europe 1 du temps de Maurice Siegel. Celui qui d'ailleurs, François, ne prédit pas à votre métier un grand avenir. L'internet, il y croit moyen.
De toute façon, moi, j'y crois pas beaucoup. J'ai gardé mon Minitel.
Bonjour Thierry Geffrotin. Okay.
Bonjour Mathieu.
Ah Thierry, je raconte des conneries et j'oublie de prendre les pages. Alors, c'est déjà Noël avec un coffret de 5 CD des plus belles chansons des dessins animés de Walt Disney.
Ah ouais, c'est une question Mathieu pour commencer. Que serait Blanche-Neige sans les 7 nains? Rien.
Mais oui.
Ouais, ouais, bah, pas grand-chose en tout cas. Mais surtout, que serait Blanche-Neige sans...
Un jour mon prince viendra.
La chanson qui fait pleurer d'émotion Eva Roche.
C'est vrai.
Mais dites-moi Thierry, c'est en français.
Oui, c'est en français comme toutes les chansons que vous trouverez dans cette compilation. 37 dessins animés illustrés en musique de 1937 à 2017 de Blanche-Neige à Vaiana. Alors oui, c'est en français parce que souvent, et même pratiquement toujours, les dessins animés de Walt Disney, vous pouvez aussi les voir en français. L'interprète en l'occurrence s'appelle Rachel Pignot. C'est la version de 2001, la troisième à ce jour en français de Blanche-Neige. Donc vous ne connaissez pas cette chanteuse, de même que vous ne connaissez sans doute pas le compositeur qui a mis Blanche-Neige en musique. Et bien je vous le dis, il s'appelle Frank Churchill. On lui doit aussi les musiques de Dumbo ou de
Dumbo.
Bambi.
Bon, là, c'est là qu'elle va pleurer.
Ne jamais montrer Bambi aux enfants sans rester auprès d'eux. Hein.
Ouais, 10 ans de psychanalyse.
C'est traumatisant,
après.
Ouais. On est clairement d'accord là-dessus. Ouais.
Bref, c'est encore de Frank Churchill, Bambi, inconnu également, les frères Sherman. Et pourtant, alors je peux vous dire, Merlin l'Enchanteur, Mary Poppins, la première version, hein, celle de 1964, les Aristochats, les aventures de Winnie l'Ourson, ce sont eux, Richard et Robert Sherman, le livre de la jungle aussi.
Ça, c'était la chanson fétiche de mon fils. Et la musique du livre de la jungle, elle est très jazz. Hein.
Ouais. Oui, c'est très jazz.
Comme les Aristochats d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
C'est les mêmes compositeurs.
Mais ce sont de très très belles musiques, hein. Vraiment. Ouais. Très bien orchestrées.
Est-ce qu'il y a quand même des artistes connus qui ont travaillé pour Disney?
Ah oui, si je vous dis Phil Collins, Elton John, ça vous parle un peu. Hein.
Bien sûr.
Phil Collins pour Tarzan et pour Frère des Ours et Elton John pour Le Roi Lion.
Je voudrais déjà être roi.
Calmez-vous.
Ah oui, mais moi, Eva me regarde pour que je relance. Mais non, moi, je fais vivre les chansons parce que j'adore les chansons de
Disney. Moi aussi, j'adore.
Là, vous retrouvez l'enfant qui est en moi.
Il y a des versions de jazz, si je peux me permettre. Aussi, chaque année, ça fait 2 ans que ça sort de façon consécutive.
Ça, c'est vraiment.
Et c'est extraordinaire.
C'est vraiment le cadeau idéal pour faire le sapin de Noël. Vous savez, quand on fait le sapin de Noël le dimanche, on écoute ces petites musiques. Les 100 plus belles chansons Disney réunies dans un coffret de 5 CD chez Universal autour de 30 euros. Merci.
Un beau cadeau. Hein.
Un très beau cadeau. Ouais. Merci, Thierry. À vos côtés, donc, celui qui remplace une fois de plus ce pauvre Grégoire Martinez, victime de ce qui sera certainement homologué par le Guinness Book des records comme la plus longue gastro de l'histoire. Va perdre je ne sais pas combien de kilos. François Geffrier, ce matin, vous nous parlez reconnaissance faciale, une technologie qui sera de plus en plus utilisée dans notre quotidien. Mais en fin de semaine dernière, le président de Microsoft a suggéré de mieux la contrôler.
Oui, quand la machine peut identifier un humain, ça fait penser à toutes sortes de films de science-fiction comme Minority Report. Un homme traqué par la police et qui se fait repérer automatiquement par des caméras installées dans le métro. Ça, on se dit que ça n'arrivera jamais, évidemment. En fait, ça existe déjà en Chine. Des policiers sont équipés de caméras intégrées dans des lunettes qui sont censées pouvoir identifier n'importe qui dans une foule.
Ouh là là, mais chez nous, rien de tout ça, rassurez-nous.
Bah, disons qu'il y a une réflexion sur le sujet, notamment depuis les attentats de 2015. Aujourd'hui, des systèmes détectent les comportements suspects. Par exemple, quelqu'un qui semble stressé ou qui fait des allers-retours sans raison dans un hall d'aéroport, ça on sait faire. Technologiquement, la France, en tout cas, se positionne, notamment par l'entreprise Idemia. C'est elle qui fait les portiques automatisés Paraf qui soulagent le travail des douaniers aux aéroports. D'ici un an ou deux, on verra ces portiques aussi dans des stades de foot. Sur le papier, la reconnaissance faciale permet aussi de payer sans s'embêter avec une carte bancaire, de se rendre au travail sans avoir de badge, de prendre le bus ou le train sans chercher un ticket au fond de votre poche.
Alors, ça peut effectivement nous changer la vie, mais c'est quand même un peu flippant votre truc.
Oui, surtout que pour l'instant, pour que ça marche, il faut rester immobile et fixer la caméra. Ah oui. Le taux d'erreur du système chinois, visiblement, est proche de 90%,
oh,
un petit peu embêtant.
Le taux d'erreur.
Exactement, le taux d'erreur. Ça ne marche qu'une fois sur 10.
Ah oui, voilà. D'accord, oui, c'est quand même, on est loin de...
Mais pour le jour où ce sera vraiment abouti, certains craignent un flicage permanent par l'État, mais aussi par des marques, des écrans vidéo dans la rue qui vous reconnaîtront et qui vous diront « Hey Mathieu Noël, tu veux un nouveau shampoing ?»
Ah oui, pourquoi pas ? Moi, je suis très consommateur.
C'est pour ça que le président de Microsoft demande que les États fassent des lois assez vite. Il veut savoir quelles seront les règles et il propose quelques principes de base. Informer les gens, traiter tout le monde de la même façon ou encore interdire l'usage de la reconnaissance faciale à des fins de discrimination.
Merci François. Eva, parlons peu, mais parlons YouTube.
Oui, alors que le sport féminin est à l'honneur en ce moment, notamment grâce à l'équipe de France de handball, sur YouTube, deux pépettes ont décidé de revenir sur la place des femmes dans le sport et ça commence comme ça.
Oh, Maud, il y a quand même des femmes extraordinaires.
Oui, ce sont des choses qui arrivent parfois.
Non mais parce que je lis un livre sur les femmes qui ont marqué l'histoire dans le sport. Mm-hmm. Par exemple, si je te dis Kalipatira, tu me dis
pas grand-chose.
Eh ben, je vais te l'apprendre, Maud, parce que c'est super intéressant. En plus, il s'agit de mecs à poil, ça va t'intéresser.
Alors, allons-y.
Maud Bettina Marie et Juliette Tressanini ont créé la chaîne Parlons Peu, mais Parlons, en 2015. Deux filles qui n'ont aucun tabou et qui évoquent avec humour des thèmes autour de la sexualité, de la féminité. D'ailleurs, la chaîne s'appelait auparavant Parlons Peu, Parlons Cul. Alors, pas question de s'auto-censurer, enfin presque.
Maud, tu connais bien évidemment le baron Pierre de Coubertin qui a réinstauré les JO.
Oui, c'est celui qui disait l'important c'est de participer.
Ouais, voilà, c'est aussi celui qui disait que ça devait être réservé aux hommes parce que les femmes étaient là que pour couronner les vainqueurs.
Oui, et il a ajouté, alors pour couronner les vainqueurs c'est très simple, il suffit de leur pomper.
Oui, alors on a compris.
Alors plus que féministe, elle se revendique humaniste, les filles, et pense qu'il faut parler de sexe avec liberté, notamment auprès des jeunes. Elles y parviennent parfaitement sans jamais céder à la vulgarité. Texte bien écrit, mise en scène classique mais ultra efficace, humour et quelques invités de marque. Juliette et Maud ont trouvé la bonne recette, ça s'appelle Parlons Peu mais Parlons et c'est sur YouTube.
Merci beaucoup Eva Rock, merci à toute l'équipe des bons tuyaux. Justement Thierry, un dernier tuyau pour notre jeune ami Grégoire Martinez, toujours souffrant.
Deux Imodium.
Merci pour la prescription. Europe
1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.